Si je vous parle de Hefei, de Kunming, de Wuhan, de Harbin et de Dalian, vous vous demanderez peut-être de quoi il est question. Eh bien, ce sont simplement quelques-unes des villes de la Chine communément qualifiées de villes de moyenne envergure qui, selon certains, sont au cœur de la force économique de ce tigre asiatique. Bien sûr, les entreprises du monde entier ont placé la Chine au cœur de leur stratégie commerciale. Mais comme les coûts ne cessent d'augmenter dans des villes comme Shanghai et Guangzhou, quel effet d'attraction auront les villes de moyenne envergure, avec leur classe moyenne montante, sur les entrepreneurs canadiens qui visent le marché chinois? Pour nous aider à examiner soigneusement la question, je vais interviewer les représentants de deux entreprises canadiennes qui voient les villes de moyenne envergure comme un élément clé de leur stratégie d'expansion en Chine. Roots Canada, la figure emblématique du commerce de détail au Canada, est en voie d'ouvrir 90 magasins dans toute la Chine. Et vous serez sans doute surpris d'apprendre jusqu'où une société de Vancouver est prête à aller pour assurer son avenir en Chine. Je vais tout d'abord m'entretenir au téléphone avec M. Ronald Kolavsky. M. Kolavsky est professeur de géographie économique à l'Université du Tennessee. Il a conseillé manufacturier et exportateur du Canada, la principale association canadienne de commerce et d'investissement sur les stratégies de localisation industrielle et de développement commercial. Merci de nous accorder ces quelques minutes, M. Kolavsky.
Merci de m'avoir invité. C'est apprécié.
Quels sont les principaux aspects que les fabricants ou les détaillants devraient prendre en considération en lien avec la Chine?
Je pense que d'abord et avant tout, et chaque personne que j'ai rencontrée en Chine m'a souligné cela, que ce soit un Chinois ou quelqu'un de l'Occident, ou du Japon ou de la Corée du Sud qui faisait affaire, ils disent « trouvez des agents et des contacts locaux ». Tout le monde m'a dit « ne le faites pas seul, n'essayez pas ça tout seul ». Plusieurs compagnies avec qui j'ai parlé, ou même les anecdotes venant du Canada et des États-Unis. Il y a tellement d'histoires de malheurs lorsqu'on essaie de trouver des marchés tout seul. Les contacts locaux, que ce soit un agent, un distributeur ou une ou deux personnes de la localité, ils connaissent les pratiques d'affaires, ils savent qui sont les personnes contactées. Les contacts en face à face sont la chose la plus importante. Et par exemple, beaucoup des fabricants sont partis et ils sont maintenant dans le delta de la rivière Pearl. Mais là, ils se spécialisent, ils deviennent les contacts, les personnes du milieu, les agents, essentiellement entre les firmes étrangères qui cherchent à faire affaire en Chine. Et ils sont quasiment comme agents et parce qu'ils connaissent le marché local dans le delta de la rivière Pearl. Et c'est une chose sur laquelle je ne peux trop insister. C'est la chose la plus importante parce que l'agent local connaît la localité sur le plan économique ainsi que les relations avec le gouvernement local.
Quels avantages y a-t-il à s'établir dans les villes de moyenne envergure?
L'avantage principal, c'est la croissance dont on n'a pas encore profité. Je crois que les firmes occidentales de l'Amérique du Nord, de l'Europe ou même du Japon n'ont pas encore misé sur la classe moyenne croissante dans ces villes. En ce qui concerne le secteur du détail, même le secteur du détail, des ventes entre entreprises, par exemple. Mais aussi, je crois que ces villes offrent beaucoup d'occasions pour les fabricants en ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre. Encore une fois, Shanghai et Hong Kong et dans le delta de la rivière Pearl sont très, très chers. Il y a aussi les salaires qui augmentent. L'économiste a mentionné récemment une augmentation de 15 % le long de la côte. Et puis, une autre chose qui est plutôt un aspect géographique, c'est pour les navires de haute mer, en ce qui concerne le barrage des Three Gorges Dam, qui permet aux navires de haute mer de percer beaucoup plus loin sur la rivière Yangtze. Donc, ça ouvre des villes de l'intérieur, des villes que nous considérons maintenant en 2007 comme étant des villes de deuxième niveau, mais qui pourraient être de premier palier.
Bon, voilà pour les avantages. Maintenant, quels sont les obstacles qui se dressent devant ceux qui souhaitent s'établir dans ces villes?
Une chose à considérer, c'est l'infrastructure traditionnelle. Ces villes de deuxième niveau n'ont pas le système de transport public développé, les lignes de métro, les routes non plus. Ils n'ont pas les routes de ceinture, les périphériques comme on a en Amérique du Nord. Et les aéroports internationaux ne sont pas au niveau que nous connaissons. Et même les ports de mer le long de la côte de ces villes de deuxième classe. Mais l'autre chose importante à considérer, c'est l'infrastructure d'affaires aussi. Dans ces villes de deuxième classe, je ne crois pas que beaucoup de personnes d'affaires connaissent aussi bien les marchés internationaux et les façons conviviales aux Occidentaux de faire affaire. Je peux souligner que ce n'est pas à une base de longueur de bras, si vous voulez. C'est plutôt sur une base amicale. Il faut connaître davantage les gens. Donc, les connexions sont très importantes. Et puis, dans ces villes, il est très difficile pour les gens qui connaissent la façon occidentale de faire affaire. Et une autre chose que je dois souligner, c'est que ces villes de deuxième niveau, de deuxième classe, si vous voulez, la surveillance gouvernementale est beaucoup plus élevée. Tandis qu'à Shanghai, c'est vraiment une situation où le gouvernement tient sa distance. Et le dernier problème, le problème du capital humain, on l'a mentionné récemment dans L'Économiste aussi, le magazine, qu'il est difficile de trouver du personnel formé, notamment les gestionnaires ou les travailleurs de manufactures hautement compétents. Et on les trouve beaucoup plus facilement sur la côte.
Quand est-il préférable pour une entreprise de s'établir dans une ville de premier rang comme Shanghai?
Tout d'abord, ces villes sont tellement plus avancées en ce qui concerne les relations internationales. C'est beaucoup plus convivial pour les gens d'affaires de tout le monde entier. À Shanghai, l'anglais, c'est la langue universelle parmi les personnes d'affaires et l'infrastructure financière, les banques, les autres institutions, les agences de comptabilité, etc. sont très axés sur la communauté d'affaires internationale. Beijing offre évidemment des avantages étant la capitale. Et le gouvernement est tellement important dans l'économie chinoise. C'est une autre chose qui est évidente. Mais encore une fois, en ce qui concerne Shanghai, c'est le centre commercial et beaucoup des grandes firmes comme General Motors et d'autres grandes firmes nord-américaines ont leur bureau là-bas. Donc, si on veut être près des centres d'investissement pour ces firmes, là où ils ont leurs agents d'achat, d'approvisionnement, il est très important de s'établir là. Ils ont des zones de libre-échange, des vols internationaux pour le Canada et les États-Unis de ces villes-là. Donc, même si les dépenses sont beaucoup plus élevées pour les baux de bureaux de locaux et la capitale humaine aussi, là, en ce qui concerne les salaires, c'est très élevé. Mais ces villes offrent tellement de choses. Et puis, pour le personnel occidental qui doit se situer dans ces villes, c'est beaucoup plus convivial pour les Occidentaux en ce qui concerne l'infrastructure en général, le transport public. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas d'exode de Beijing, Shanghai, Guangzhou vers l'intérieur de la Chine, par exemple.
Il est donc clair que la Chine ne constitue pas un seul gros marché. Nous sommes plutôt en présence de marchés très diversifiés. Quel conseil pourriez-vous donner aux entreprises canadiennes qui souhaitent prendre contact avec ce marché complexe?
Je pense que le contact face à face est très important. Beaucoup de compagnies occidentales établissent un site web et s'attendent à faire affaire tout de suite. Et il y a beaucoup de firmes qui se sont fait avoir avec des contrats lorsqu'ils essaient de faire affaire par le biais du télécopieur. Les contacts face à face sont très importants. Par exemple, je regardais les données des exportateurs et des fabricants canadiens de leur recensement de 2006. Dans cette enquête, on a demandé à beaucoup de fabricants canadiens quelle était leur stratégie principale pour l'expansion des marchés en Chine. Et la réponse principale, numéro un, d'une marge de 2 à 1 sur l'autre plus grande réponse, était voyager en Chine. Le contact face à face est très important et c'est venu des firmes qui font déjà affaire en Chine. Donc, je crois que ces firmes reconnaissent l'importance de connaissance des individus.
Je vous remercie, M. Kolavsky, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
C'est un plaisir de vous aider. Merci.
Je me suis entretenu avec le professeur Ronald Kolavsky de l'Université du Tennessee. Il était à Knoxville. Ainsi, comment les entreprises canadiennes tirent-elles leur épingle du jeu en Chine? Eh bien, Roots Canada, figure emblématique du commerce de détail au Canada, célèbre pour son logo du castor et sa philosophie verte, se tourne maintenant vers la Chine. J'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Michael Budman, cofondateur de Roots Canada, au sujet du projet d'expansion de son entreprise vers la Chine. Voici ce qu'il avait à nous dire.
Je pense qu'il y a 44 magasins en Asie maintenant. Et notre intention, c'est qu'il y ait 300 magasins en Asie entre Hong Kong, la Chine. Nous avons 23 magasins au Taïwan en ce moment, ce qui est un excellent marché pour nous. en Corée, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande. Donc, les gens partout au monde adorent le Canada. C'est tellement apprécié. Ils apprécient le Canada beaucoup plus que les Canadiens ne le font. Ils apprécient la beauté naturelle, les ressources, la culture, la santé. C'est une excellente association pour Roots. Et puis, c'est excellent d'être ambassadeur du Canada au monde. Et je crois qu'à certains égards, nous le sommes.
Il m'a aussi parlé des conséquences qu'il anticipe pour son entreprise dans la foulée de ce projet d'expansion. Michael Budman ne manque pas de souligner la tournure heureuse des événements.
La chose la plus facile à dire sur la Chine, c'est qu'un mois en Chine, c'est comme un an en Amérique du Nord. Écoutez, nous voulons y participer et ça va rendre notre compagnie plus forte et plus en santé et nous permettre aussi de faire des choses plus novatrices, plus charitables. Et je crois que nous aurons un excellent rendement et je crois que nous aurons énormément de produits faits au Canada qui se vendront en Chine.
Il ajoute que si l'expérience chinoise est réussie jusqu'à maintenant, ça aurait été totalement différent s'il n'avait pas pu compter sur un partenaire fiable.
Ça s'est avéré bien facile parce que notre partenaire, la Lianfeng, est un excellent organisme et ils ont trouvé les sites de vente au détail, ils ont trouvé les gens. Nous, notre tâche, c'est de leur fournir un produit incroyable. Je comprends que c'est très compliqué et c'est pour cela qu'il est bien que nous ayons des gens locaux qui s'en occupent. Je ne pourrais imaginer le faire à partir du Canada. Ce serait très compliqué. Donc, l'acquisition de l'immobilier est très difficile. Trouver les magasins, les sites, c'est une chose que nous, à Toronto, ne pouvons pas faire vraiment. Mais nos partenaires, Lianfeng, c'est leur expertise. Et puis, ça a été excellent. Ils sont très positifs et ils sont là que pour essayer d'aider à faire la promotion du commerce à l'intérieur de la Chine. Et puis, je crois que ça va aider le monde. Et bon, c'est ce qu'il faut espérer.
Une autre entreprise canadienne, Never King Coffee, est en train de faire son chemin en Chine. En 2004, elle faisait sa première incursion dans le marché. Elle exploite actuellement 23 établissements en Chine et elle prévoit en ouvrir 8 autres très bientôt. Mais l'entreprise ne se limite pas au café. En effet, Never King prévoit en outre importer des bovins laitiers canadiens, ouvrir une banque et exploiter une plantation de thé de 1000 acres dans ce pays. Je me suis entretenu avec James Wong de Never King Coffee et voici ce qu'il avait à me dire concernant les raisons de la diversification des activités de son entreprise en Chine.
Nous envisageons l'économie de la Chine d'ici 10, 20 ans. La Chine sera le pays avec le plus d'influence sur le plan économique au monde. Donc, la possibilité est là. Nous planifions pour l'avenir. C'est pour cela que nous faisons affaire en Chine en regardant ce marché si vaste et toutes ces possibilités. Le groupe Never King Coffee Group. Lorsque nous avons commencé, nous étions petits et nous n'avions pas la vision pour voir les occasions qui se présentaient si on se diversifiait, notamment en Chine. Et lorsque nous nous trouvons en contact avec plus de gens et lorsque nous nous instruisons concernant les possibilités de se diversifier en Chine, bien, nous avons poursuivi cette orientation. Nous devons commencer par les grandes villes et éventuellement, nous irons vers l'intérieur à des villes de deuxième niveau et ce sera notre objectif à long terme.
J'ai aussi demandé à M. Wong quels obstacles il avait rencontrés en Chine avant de pouvoir s'y établir. À son avis, le choix d'un emplacement est d'une importance capitale, mais ce qui compte le plus, ce sont les gens.
Nous avons connu quelques petits pépins à cause du Quanxi. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Il s'agit de la relation avec les autorités locales. Mais éventuellement, comme tellement de magasins ont ouvert leurs portes, notre nom est devenu connu en Chine, dans les grandes villes. Et la localisation pose un moins grand problème qu'avant. Ça, c'est la chose la plus importante pour faire affaire en Chine. Il faut connaître les gens qui sont responsables, qui assurent le fonctionnement du gouvernement. Et dans chaque ville où nous développons une entreprise, nous poursuivons un dialogue direct avec les responsables sur le plan local ou provincial.
En outre, son entreprise fait tout ce qu'elle peut pour faire la promotion du Canada en Chine et il peut compter, dit-il, sur l'aide du service des délégués commerciaux du Canada.
Il y a beaucoup d'aide. Nous maintenons le contact avec l'ambassade et ils nous donnent de l'information sur les produits canadiens. Par exemple, nous essayons d'envoyer de l'eau embouteillée du Canada en Chine et l'ambassade nous donne de l'information sur les vendeurs avec qui nous devrions prendre contact, par exemple. Et puis, l'ambassade était là à la cérémonie d'ouverture à Beijing. Donc, nous sommes en contact et nous ne nous sentons pas seuls en travaillant outre-mer. Nous avons l'impression que le gouvernement canadien nous appuie.
Nous sommes maintenant en communication avec M. Andrew Smith, qui est à Beijing. M. Smith est délégué commercial principal à l'ambassade du Canada à Beijing. Et il met sa vaste expérience au service des entreprises canadiennes qui font des affaires en Chine. Bonjour, Andrew. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui.
Merci, Michael.
Vous avez entendu les commentaires du professeur Kolavsky et de nos deux entrepreneurs invités. Comment d'autres entreprises canadiennes qui s'intéressent à la Chine peuvent-elles trouver la bonne recette pour y entrer?
Les compagnies canadiennes qui considèrent la Chine doivent aborder ce marché avec beaucoup de patience et beaucoup de financement aussi pour faire une recherche complète sur ces marchés. Il n'y a pas de thème commun qui puisse les lier. Et en fonction des forces compétitives et sur le modèle d'entrée dans le marché que les compagnies canadiennes connaissent, il faut évaluer certaines de ces localités pour le potentiel du succès. Et c'est là, Michael, que le service des délégués commerciaux peut vraiment aider. À titre d'exemple, les compagnies doivent considérer le service des délégués commerciaux avant d'essayer le marché. Il y avait une compagnie dans le domaine de l'exportation de la nourriture qui avait créé un partenariat avec une entreprise locale dans une ville majeure intérieure de la Chine. C'était un grand marché, les salaires étaient à la hausse. C'était un marché très intéressant pour cette compagnie canadienne. Mais elle avait un produit qui avait besoin d'être réfrigéré avant d'être rendu au consommateur. Mais le client canadien n'avait jamais étudié les liens de transport pour transporter le produit du port d'arrivée à cette ville intérieure. Et ce partenariat a fait échec après beaucoup de pertes d'argent parce qu'on perdait le produit. Et les compagnies canadiennes doivent considérer tous ces facteurs en considérant la Chine. Ça change beaucoup. La Chine a des plans massifs d'un système de routes interurbaines qui sera seulement second derrière celle des États-Unis pour que les compagnies puissent pénétrer, mais les compagnies doivent vraiment faire une recherche complète de tous ces aspects.
Quels sont donc les principaux obstacles auxquels feront face les entrepreneurs lorsqu'ils examineront tous ces facteurs?
Bien, un des obstacles, c'est l'information, la capacité de savoir qui sont les joueurs clés, qui sont les responsables gouvernementaux, les exigences en matière de licence locale, trouver du financement, la capacité d'effectuer une diligence raisonnable dans certaines de ces villes. Comme nous avons 5 bureaux répartis en Chine, l'ambassade et les consuls généraux couvrent un vaste territoire. Et comme j'ai dit au départ, il y a énormément de villes. Et donc, la capacité de savoir comment ces marchés fonctionnent et comment on fait affaire sera vraiment mis à l'épreuve pour ces compagnies. C'est là que le service des délégués commerciaux pourra fournir des conseils et de l'orientation. Nous avons visité la majorité de ces villes de premier plan sur lesquelles les compagnies canadiennes pourraient se concentrer.
Bien. Si une entreprise veut ouvrir un établissement de vente au détail ou une usine en Chine, quelles sont les options que s'offre à elle?
Pendant bien longtemps, Hong Kong était vraiment la seule porte d'entrée vers ce marché. Et je crois que les compagnies hongkongaises ont vraiment peaufiné cette expertise en sachant comment pénétrer, comment ouvrir la porte aux compagnies occidentales dans ce marché. Un domaine dans lequel nous avons travaillé avec les compagnies à base de Hong Kong, c'est en essayant d'aider les firmes canadiennes de petite et moyenne taille. La règle de droit à Hong Kong est une chose que nous connaissons. C'est une société qui fonctionne en anglais. Les compagnies canadiennes sont plus à l'aise pour former des partenariats avec quelqu'un en qui elles ont confiance dans le marché hongkongais. Et le partenaire de Hong Kong offre l'expertise sur le marché de la Chine. Donc, c'est la porte d'entrée à ce marché depuis bien des années. Ça continuera. Depuis l'accès de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, il y a plusieurs compagnies de la Chine propre qui peuvent faire du commerce international. Donc, les compagnies canadiennes, en fonction de leur aversion au risque et leur compréhension du marché, ont plusieurs possibilités. Ils peuvent chercher à créer des partenariats directement, mais il faut beaucoup plus de temps, de patience et d'enquête de leur part. Ou bien, ils peuvent chercher un partenaire en qui ils ont confiance, tel qu'à Hong Kong ou à Taïwan, pour entrer dans ce marché. Donc, il y a des options en fonction de leurs besoins particulier.
Est-il toujours nécessaire de se trouver un partenaire?
Dans certaines industries, c'est exigé, dans certains secteurs, c'est une obligation, notamment si on investit en Chine, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Certaines compagnies canadiennes ont agi de façon autonome aussi.
Andrew, James Wong a insisté sur le concept de Guangji, ou l'établissement de rapports étroits. Expliquez-moi davantage ce concept et dites-moi pourquoi il est si important en Chine.
Bien, je crois qu'il faut remonter à l'ère du confucianisme et voir comment les relations fonctionnaient et voir comment ça a aidé à former l'attitude aujourd'hui en Chine. Mais ce que nous pouvons suggérer aux compagnies canadiennes, c'est d'abord et avant tout parler à nos bureaux régionaux, parler aux services des délégués commerciaux en Chine. Et ce marché n'est pas pour tout le monde. Et les responsables régionaux peuvent aider à former la stratégie des compagnies canadiennes avant qu'elles essaient ce marché. La Chine et les compagnies chinoises sont vraiment axées sur les affaires et conclure l'entente. Et les décisions se font de plus en plus axées sur le sens d'affaires pures et beaucoup moins sur le Guangxi. C'est une façon d'influer, de contrôler, mais c'est pas aussi important, c'est pas aussi fiable. Souvent, c'est avec les responsables clés, dans les postes clés où on peut vraiment permettre à ce que les choses se fassent. Et avec l'introduction aux partenaires locaux, le partenaire local peut choisir de faire affaire. C'est à 50-50 entre le Guangxi et le modèle d'affaires purement. Mais de plus en plus, ce Guangxi n'est qu'avec un individu et un responsable. Et ils se font déplacer ici et là dans le pays. Donc, une fois ces responsables déplacés, on a perdu le Guangxi. Il est beaucoup plus efficace d'avoir des rapports multiples avec différents responsables gouvernementaux dans ces marchés, avec des entreprises locales aussi. Et il est nécessaire de venir ici, de se réunir avec ces gens, parce que essayer de gérer un projet dans une ville de deuxième plan à partir du Canada ne marche pas. Vous serez le dernier à savoir si les choses tournent mal, et à ce point-là, vous aurez très peu d'options pour essayer de régler la situation. La meilleure solution serait d'avoir ses propres gens dans votre projet là où vous investissez. Mais en l'absence de ça, il faut maintenir un contact régulier avec le partenaire, les fournisseurs, les responsables gouvernementaux locaux, ce qui veut dire peut-être communiquer en mandarin, les communications, les appels téléphoniques, les visites aussi, avoir un horaire de visite régulier et des visites des cadres supérieurs qui montrent un engagement envers le marché. Il y a beaucoup de valeur à cela.
Selon vous, parmi les tendances primordiales observées actuellement en Chine, quelle est celle qui aura le plus d'incidence sur la Chine et les entreprises canadiennes?
Le pays est en pleine explosion, mais si j'avais à choisir une tendance ou bien un développement, Michael, qui aurait le plus grand impact, ce serait l'urbanisation. J'ai mentionné au départ qu'environ 40 % de ce pays est présentement urbain. Il y a un plan pour que ce soit de 50 % pour avoir une division urbaine-rurale de 50-50 d'ici 10 ans. Mais ça veut dire augmenter. Chaque augmentation de 1 % dans l'urbanisation veut dire que la Chine doit ajouter de 300 à 400 millions de mètres carrés d'habitation. Ça consomme 1 800 km² de terre. Ils ont besoin de 140 millions de mètres cubes d'eau potable, 640 millions de kilowatts d'énergie. Je pourrais continuer. Les autres déchets qui sont créés, il y a de moins en moins de terres agricoles parce que c'est consommé pour la croissance urbaine. Les compagnies canadiennes ayant des solutions dans ce domaine, dans la production des aliments, dans le traitement des autres déchets, des déchets, dans d'autres domaines tels que l'approvisionnement énergétique, les services environnementaux, la conception urbaine et architecturale. Ce sont d'excellents domaines pour les compagnies canadiennes avec l'évolution de la Chine. C'est un marché plein d'effervescence, mais ce n'est pas pour tout le monde. Les préoccupations concernant la propriété intellectuelle sont dissuasifs pour certaines firmes. Il y a des défis en ce qui concerne la transparence et le respect de la règle de droit. Et comme j'ai dit, souvent, c'est dans les villes de deuxième et de troisième plan, au-delà des grandes villes ici en Chine. Mais ça souligne le besoin de faire la recherche sur le marché, de comprendre l'environnement, de favoriser, de créer de bonnes relations avec les partenaires, avec le gouvernement, et d'abord et avant tout, de dire aux services des délégués commerciaux de leur parler de vos progrès.
De fait, nous aborderons quelques-unes de ces problèmes dans un prochain balado qui portera sur la gestion du risque en Chine. Andrew, avez-vous un dernier conseil à donner aux entrepreneurs canadiens avant que nous nous quittions?
Bien, nous essayons de dire aux compagnies canadiennes qui considèrent la Chine de considérer les trois P, c'est-à-dire la persistance, la patience et la présence.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Andrew.
Merci encore une fois, c'était un plaisir.
Eh bien, c'est déjà tout pour ce balado bulletin de Canada Export. Vous pouvez aussi visiter le site infoexport.gc.ca pour mieux comprendre les avantages de consulter le service des délégués commerciaux du Canada. Et n'oubliez pas de vous rendre sur le site international.gc.ca pour vous abonner à Canada Export, notre magazine bimensuel. Je suis Michael Mancini et je vous dis maintenant au revoir.
Ceci est un balado du gouvernement du Canada.